Hello, je suis Adriana, coach formatrice professionnelle et créatrice de contenu. Au quotidien, j'accompagne les entreprises, dirigeants, managers et entrepreneurs pour engager le changement et convertir leurs objectifs en réussite. Avec ma casquette de créatrice de contenu, j'accompagne également les organisations pour les aider à être visibles sur le web. Seule ou en compagnie d'entrepreneurs inspirants, je vous propose d'explorer ensemble l'entrepreneuriat avec une vision à 360 degrés chargée de good vibes pour écouter vos ambitions et inspirer votre business. Installez-vous confortablement et let's go pour le démarrage de ce nouvel épisode. Enjoy! Bienvenue dans ce nouveau podcast de Lyra et Plumania. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder une thématique que j'affectionne tout particulièrement, le pouvoir des mots. Et pour pouvoir explorer cette vaste thématique ensemble, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui au bout du micro non pas une, mais deux entrepreneuses, Noémie Bongage, fondatrice de Tabernache, et Émilie Rohaud, rédactrice web et intervenante optimiste. Où que vous soyez et quoi que vous fassiez, profitez de ce podcast pour vous inspirer. Bonne écoute! Hello Noémie et Émilie, comment allez-vous?
Salut Adriana, ça va et toi?
Hello, ça va, merci.
Ça va très très bien, je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui sur Plumania. C'est un plaisir de vous accueillir parce qu'on a eu l'occasion de se croiser, on va dire, et je mets bien le mot croiser avec des majuscules là pour le coup, parce que du coup on se connaît depuis à peu près un an et en fait on communique plus sur LinkedIn qu'en présentiel.
C'est ça.
On est bien dans la thématique numérique.
Et c'est pour ça que je suis très très heureuse aujourd'hui de pouvoir être avec vous pour partager aux auditeurs de Lyra et Plumania vos inspirations, déjà avant toute chose votre parcours, pour qu'on puisse savoir qui vous êtes, qu'est-ce qui vous inspire et ce que représente pour vous le pouvoir des mots. Parce que ce sont quatre mots, déjà eux-mêmes énigmatiques, et ils peuvent être interprétés de plein de façons différentes, et on est bien curieux de savoir ce que ça représente pour vous.
Eh bien écoute, plaisir partagé en tout cas d'être là aujourd'hui sur cette thématique avec toutes les deux.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je vous propose, c'est de nous parler un peu de vous. Quel a été votre parcours professionnel si vous le souhaitez? Quel a été peut-être aussi votre déclic pour vous lancer dans la vie entrepreneuriale? Dites-nous tout.
Merci déjà de nous accueillir pour cet épisode. Alors pour me présenter brièvement et succinctement, du coup, j'ai travaillé au sein de BGE en Eure-et-Loir et en Picardie pour accompagner des entrepreneurs sur l'émergence d'idées et le développement d'activités. Et en fait, il y a un sujet qui m'est tombé dessus comme ça, par hasard, qui sont les biodéchets. Sujet vaste et passionnant. Et en fait, j'ai rejoint Morgane des Compagnons du Compost. Donc je suis à la fois salariée dans cette activité et aussi du coup indépendante avec Tabernache pour poursuivre finalement deux choses qui m'animent tout particulièrement, qui sont le compost, parce que c'est magnifique de pouvoir faire de la terre avec des déchets, enfin, je trouve ça merveilleux, et de poursuivre aussi cet accompagnement auprès d'entrepreneurs pour les aider finalement à déployer leur activité, se décentrer et recentrer aussi de la communication. Je pense qu'on va reparler de la communication de façon générale, mais de pouvoir prendre de la hauteur pour y aller de façon plus directe et plus efficace.
Merci beaucoup Noémie. Et toi Émilie?
Alors moi pour mon parcours, j'ai... pareil, je vais choisir l'option résumée. J'ai été pendant 8 ans dans le secteur de l'intérim, donc avec des missions principalement RH et commerciales, hyper enrichissant. Avec par contre énormément d'échanges et d'interactions humaines. Ce qui m'a fait un petit peu le déclic en fait sur l'aspect entrepreneuriat et à la fois communication, c'est que je sais que j'avais pas mal de demandes de mes collègues. Est-ce que tu peux relire le mail de tel client, tel dossier, etc. Je me dis, il y a peut-être quelque chose à creuser sur l'aspect reformulation de demande, etc. Donc ok, ça reste dans un coin de ma tête. Et puis après, l'entrepreneuriat, comme beaucoup, il y a eu le moment un peu pause, ralenti, au moment du confinement et compagnie. Et j'avoue que j'ai toujours voulu tester, en fait, cette liberté, etc. Donc après, bon, c'est un autre sujet, mais il y a pas mal de choses à déconstruire du salariat quand on se lance après en mode solo. Mais voilà, donc pour cet aspect-là. Et puis après, je pense que la fondation, voilà, ça reste la liberté, pour le coup, numéro un, en fondant les mots pétillants, c'était... c'était vraiment comment dire, cette liberté de choisir avec qui tu travailles, sur quelle thématique, comment t'organises tes journées. Bon, au bout de 3 ans, c'est pas non plus encore l'organisation optimale, mais voilà, ça reste un test H24. Donc vraiment, ouais, cette fondation en fait de liberté, et puis après, bah, tout cet aspect bienveillance, respect, et puis l'entièreté, je pense beaucoup. C'est de voilà, je sais qu'aujourd'hui, je travaille avec mes clients parce que on partage des valeurs, et puis voilà, c'est vraiment quelque chose de précieux aujourd'hui pour moi.
C'est particulièrement inspirant. Et ce que je vous propose à présent, c'est de vous présenter peut-être sous forme de portrait chinois. Est-ce que vous êtes partante?
Oui. Allez, go.
Émilie, si tu étais une planète, laquelle serais-tu?
Ça a été assez rapide pour cette question, pour le coup, parce que bah, j'ai choisi Mercure, en fait. C'est un peu le symbole de la communication. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on parle beaucoup, alors me lancez pas sur l'astrologie, parce que c'est pas le sujet du jour, mais des planètes qui rétrogradent, et donc Mercure en mode communication, il y a des communications un peu plus brouillées, un peu plus floues, etc. Et donc c'est vraiment en dents de scie sur cet aspect-là. On sait que c'est pas toujours fluide, et donc ça me parle beaucoup, parce qu'après, bah, faut revenir à l'intérieur, etc. Donc ouais, je reste sur Mercure, pour le coup.
Ok. Et Noémie, quelle planète serais-tu?
Alors moi, j'ai mis le Soleil, mais du coup, en y repensant, je me dis, est-ce que c'est véritablement une planète ou pas? Donc, gros doute, Madame Planète, on est OK ou pas?
on va dire que oui, on va pas aller dans le détail.
Okay, d'accord, donc, c'est peut-être pas forcément même, mais en tout cas, j'ai particulièrement pensé au Soleil, parce que pour moi, ça représente la partie... Enfin, la lumière et la luminosité, c'est aussi gage d'optimisme. Aujourd'hui il fait un peu gris, et finalement j'arrive toujours à me dire que quand il fait gris comme ça, le soleil est toujours derrière les nuages, donc c'est que voilà. Mais pour moi ça représente l'optimisme, la lumière, et ouais, enfin, on gravite autour de pas mal de choses, et enfin voilà, c'est vraiment le cœur de beaucoup de choses, je trouve, le soleil. Donc le soleil.
Et si vous étiez une chanson, laquelle seriez-vous?
Ça, je partageais à Noémie en coulisses que j'avais un peu galéré. Et au final, j'ai laissé dériver ma playlist, et du coup, je choisirais All Night de Power of Stellar. C'est un son un peu entraînant, etc. Et je me dis, ça met toujours la pêche, ça. Donc ouais, je partirais là-dessus, pour le coup.
Chargé de good vibes.
Ouais.
Eh bien, moi, c'est Jet Song. Je sais pas si vous connaissez.
Non.
Ça fait partie de la bande-son de West Side Story. J'adore cette comédie musicale, et en fait c'est la musique de, enfin c'est la chanson des Jets, du coup, qui est l'un des gangs de West Side Story. Et en fait c'est quand t'es un Jet, en fait tu y restes toute ta vie, et donc cet esprit vraiment communauté, et se serrer les coudes, etc. Enfin j'aime, puis l'entraînement aussi, enfin j'adore West Side Story. Voilà.
Ça doit parler à un bon nombre d'auditeurs, je pense. Et si vous étiez un mot?
Noémie, est-ce que tu veux prendre l'heure
pour switcher? Je me lance. Je dirais l'amour. Parce que j'ai à cœur, en tout cas depuis que je suis à la fois chez les Compagnons du Compost et chez Tabernache. En tout cas, c'est vraiment le mot qui souligne le quotidien et ce que j'essaie de m'appliquer pour aimer et mettre de l'amour et de la joie, en fait, dans tout ce que j'entreprends au quotidien. Et pour moi, c'est important de se dire, voilà, si je fais quelque chose, je le fais parce que j'en ai envie et parce que ça me procure du plaisir, ça m'amuse, donc ouais, je mettre de l'amour, en fait, un petit peu dans tout ce qu'on fait, je pense que ça nous rendrait aussi peut-être un peu plus heureux. Donc l'amour.
C'est très beau ce que tu partages, et ce qui est lié à l'amour, c'est ce qui vient du cœur.
Exactement. Voilà, donc l'amour.
Merci Noémie.
Comment répondre après ça?
Il y a plein de possibilités.
Ouais, alors, est-ce que je peux faire une réponse en deux options?
Bien sûr. Alors, première option,
la sérieuse. On reste sur la liberté, parce que je pense que ouais, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, sur le côté très libre, très... comment dire, liberté de mouvement, liberté de pensée, liberté de... Voilà, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et pour la deuxième... beaucoup plus infantile. Moi, c'est que j'adore la sonorité de patapon. Et j'ai regardé, du coup, la définition. Franchement, un petit patapon, quoi. Donc, voilà, c'est très enfantin. Mais j'adore la sonorité. Et du coup, la définition, c'est y aller doucement. Et je me dis que c'est parfait pour notre podcast d'aujourd'hui aussi. Donc, voilà.
Mais vous êtes au top, les filles. D'ailleurs, petit patapon, il n'y a pas un héron dans l'histoire.
Oui, on va pas partir en mode musique, mais ouais, exactement. Après, tu l'as, c'est cadeau, c'est pour moi, vous l'avez dans la tête.
Exactement, ça c'est cadeau, Guita.
On est d'accord que c'est héron, héron,
petit patapon. On est ok. Et pour finir la présentation de votre portrait chinois, si vous étiez un animal, quel animal seriez-vous ?
Alors moi, je suis partie sur le scarabée, parce que voilà, j'aime bien être dans les coulisses, pas prendre trop de place de manière générale, mais il fait quand même son petit bonhomme de chemin, il contribue à plus grande échelle, voilà, donc j'aime beaucoup aussi, et puis je trouve qu'il est fort en symbolique de transformation, donc le côté évolution dans le temps, ouais, ça me parle beaucoup pour le coup.
Et puis il est étincelant le scarabée.
Oui, alors j'avoue que je suis pas partie là-dessus, mais on pourrait faire le lien avec le mot pétillant, tu vois, pour le côté aussi lumineux, etc. Donc ouais. Merci Adrienne.
Moi pour le coup j'ai eu un peu de mal à trouver, et en fait, merci Emilie, t'as raccroché les wagons. Mais en fait du coup le nom de mon entreprise c'est aussi Tabernache. Et en fait, spoil alert, la bernache est une noix sauvage, donc c'est une noix noire. On en voit dans le parc de Chantilly, d'ailleurs. Donc le parc du château de Chantilly, mais c'est une noix sauvage canadienne. C'est notamment ces oies qu'on représente qui volent quand elles migrent en V, en fait. Donc la bernache, essentiellement, voilà, en lien avec le nom. Et, parce qu'en fait, quand on a trouvé aussi le nom de tabernache, donc j'ai fait ça en collectif, la définition, enfin la caractéristique de l'animal, c'était qu'il ramène avec tact vers l'objectif initial. Et c'est vrai que c'est pas déconnant avec ma personnalité de dire bon alors, qu'est-ce qu'on disait ? Continuons pour accrocher les wagons.
D'ailleurs, juste pour peut-être la petite précision géographique, le château de Chantilly, situé dans l'Oise.
Exactement. Pardon, je n'ai pas fait le guide touristique, mais oui, effectivement, château de Chantilly, situé dans l'Oise.
Donc, si ça vous intéresse, auditeurs, de voir des bernaches en live, on peut en trouver à Chantilly. La pépite à la fin, si vous étiez un super pouvoir.
Pour rester dans la thématique, mais s'excentrer un petit peu, je dirais la communication animale. C'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Pour la petite anecdote, j'ai même fait un stage. Donc, il faut y croire de façon un peu plus... Enfin, moins cartésienne, on va dire. Mais ouais, ça lie le côté deux passions, donc les animaux, la biodiversité, le côté nature, avec la communication. J'avoue que j'en rêve, pour le coup, depuis gosse.
Pour moi, alors j'hésitais avec le pouvoir de voler, etc. Et en étant beaucoup plus terre à terre, un truc que j'adorerais faire, c'est pouvoir éradiquer la peur. Parce que pour moi, c'est un truc qui nous paralyse énormément et qui nous fait perdre notre âme d'enfant. Pouvoir balayer en fait toutes les peurs qu'on peut avoir qui sont pour la plupart infondées. Retirer toutes les peurs qui nous freinent à entreprendre, à vivre nos rêves, etc. Ne serait-ce qu'à se mettre à courir et chanter sous la pluie par la peur du regard des autres.
C'est déjà énorme d'en avoir conscience.
Ouais.
Et je vous remercie pour tout ce que vous venez de nous partager. Je pense qu'auditeurs, vous en savez beaucoup plus à présent sur vos portraits, Noémie et Émilie. Et pour rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi le pouvoir des mots ?
Je n'ai pas du tout fait d'études en neurosciences, il n'y a rien de... En tout cas, je ne vais sortir aucune source là-dessus, mais en tout cas, je sais que ça marche pour moi. Je ne sais pas si vous êtes déjà réveillé le matin, enfin ça normalement si, tous les jours, mais le premier message ou la première chose que vous vous dites le matin en vous réveillant, généralement ça drive votre journée. Est-ce que vous êtes déjà réveillé le matin en vous disant « je suis creux, j'ai pas envie aujourd'hui » et en fait toute la journée se déroule mal, alors que... Et d'autres journées où vous dites « ah ouais, il fait beau, ça va être trop bien aujourd'hui, on va passer une super journée » et en fait vous êtes au taquet toute la journée, mais en fait juste ça, pour moi le pouvoir des mots, en fait ça conditionne notre cerveau, notre façon d'agir, notre façon de percevoir les choses et de les accueillir aussi, qui peuvent passer du simple au double en fonction de la première chose qu'on se dit le matin ou la première chose qu'on va dire à quelqu'un d'autre aussi. Ça fait vraiment la différence sur comment on aborde notre journée. Donc juste ça, je trouve que ça a un pouvoir énorme, ça nous conditionne pour ce qui va se passer dans les heures, mois, années, etc. À venir. Au-delà de ça, pour la petite anecdote, un matin j'accueille un entrepreneur que j'avais en rendez-vous. Je la vois dans la salle d'attente et en fait la première chose que je lui dis, allez, ça va être une bonne journée, vous voulez un café et tout. Et en fait, donc je lui sers son café et on se pose dans le bureau, elle me dit, oh, mais vous m'avez dit que ça allait être une bonne journée là, qu'en fait je suis à plat, mais du coup là j'ai juste envie qu'on avance, enfin ça lui a redonné une impulsion en fait dans sa journée qui à mon avis n'avait pas forcément très bien commencé. Et juste ça, donc ça nous conditionne, enfin ça permet de faire avancer et de faire bouger les lignes en fait aussi chez les autres. Et ça c'est valable dans son quotidien, mais aussi dans son entreprise. Chez les Compagnons du Compost, du coup, on a deux missions. Travailler sur la réduction du gaspillage alimentaire et le compostage des restes. On a travaillé sur notre pitch d'entreprise et au début, on était « Ouais, on veut lutter contre le gaspillage alimentaire. » Alors ouais, déjà, quand tu luttes contre quelque chose, t'es un peu en mode combat, un peu agressif, etc. Et du coup, en retravaillant le discours, bah, est-ce qu'on veut réduire le gaspillage alimentaire ? Ouais, là on est dans une démarche où on va aller chercher la pente descendante du volume, donc vraiment drastiquement réduire. Est-ce qu'on veut limiter le gaspillage alimentaire ? Bah limiter, on est plus dans, voilà, on est à un certain niveau, on veut pas aller au-dessus, donc on met en place des choses pour que ça reste en fait à ce niveau-là. Donc en fait, on avait finalement trois choix de mots qui mettent en perspective quelque chose et une dynamique d'entreprise totalement différente. Soit on est en mode très militant, on va lutter contre vous pour réduire le gaspillage alimentaire, etc. Et du coup, c'est peut-être moins inclusif, ça donne moins envie à nos clients. Quand on est dans une limite, voilà, on est là, c'est bien, ça reste, mais on sait pas trop ce qu'on va faire pour vraiment avoir une action qui va avoir un impact, que réduire, finalement, on se met dans une dynamique de on va établir des plans d'action pour faire en sorte de diminuer le volume qu'on peut avoir dans l'entreprise. Et donc, en fonction du mot qu'on va employer, ça va aussi introduire une dynamique complète dans l'entreprise.
Et c'est là où on pourrait faire le lien avec la perception, quand on a quelqu'un en face de soi.
Ah bah complètement. Le fameux « ah bah non, ce n'est pas possible de faire ça » ou « c'est impossible », tu le vis pas pareil. Enfin, c'est impossible, non, c'est bon, c'est mort, bon bah ok, je repars, ou voilà, c'est pas possible, t'as toujours un peu moyen de négocier, et donc bah forcément dans ta relation à l'autre, tu vas instaurer quelque chose de différent. Il y a un truc que j'aime particulièrement aussi lié au mot. Est-ce que vous connaissez la chanson Sweet Dream de
Eurythmics?
Ouais.
Bien sûr que oui.
Tu danses dessus.
Oui.
Ouais. Tu prends exactement la même chanson chantée par Marilyn Manson.
Ah, je la connais, la version, elle est pas du tout pareille, elle est plus hard.
C'est pas la même vibe.
C'est exactement les mêmes paroles, le même message, et en fait, en fonction de ce que tu dis, enfin, tu prends un même discours, tu prends une même chanson, n'importe quoi, en fonction de la personne qui la chante, de ce qu'elle incarne de façon générale, c'est pas du tout perçu pareil. Je mets au défi de danser sur la version de Marilyn Manson, c'est... Faut le vouloir. Je pense qu'il y en a qui en sont capables, mais faut vraiment le vouloir. Mais enfin voilà, il y a un vrai sujet au-delà des mots. Et d'ailleurs, quand on parle de pitch aussi, j'ai plus les pourcentages malgré tout. Les mots ont leur importance, mais sur ce qu'on retient du message, c'est je crois que c'est moins de 10% d'un pitch en fait, ce qui va retenir. D'ailleurs, c'est la gestuelle, c'est l'intonation aussi qu'on met dans chaque mot. D'ailleurs, je pense que ça va te parler, mais en espagnol aussi, enfin, il y a beaucoup d'intonation, c'est une langue qui est très chantée. Bah, ça permet de mettre du rythme et en fait d'accentuer sur certains mots.
Et oui, et là le mot qui me vient, c'est olé.
Olé.
Ça avance quoi.
Exactement. Et d'ailleurs, il y aurait peut-être pas un lien non plus avec l'intention qu'on y met. Quand on passe un message ou quand on fait un pitch, d'ailleurs, ça donne des sueurs froides à énormément de personnes dès qu'il y a le mot pitch qui vient.
Je pense que prendre la parole aussi au bout d'un micro pour un podcast, ça fait peur. Mais oui, mais parce qu'on met sur la parole en public, tout à l'heure je parlais de peur. Je pense qu'on a une peur énorme sur... En fait, on projette... en fait, on pense que les personnes qu'on a en face de nous savent ce qu'on va dire. Alors qu'en fait, pas du tout. Et donc, on se dit, ah ouais, mais si j'oublie de dire ça, 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 ça et ça, en fait, je vais passer pour quelqu'un de pas pro, enfin, j'aurais pas passé l'ensemble de mon message, etc. Alors qu'en fait, les personnes en face, elles ont des fois des attentes, mais elles savent pas exactement ce qu'on va dire. Enfin, d'ailleurs, là, les personnes qui nous écoutent ne savent pas ce que je vais dire dans 2 minutes, et moi non plus d'ailleurs. Mais en tout cas, on a cette crainte du jugement de l'autre, alors que l'autre ne sait pas ce qu'on va dire. Et moi, j'essaie de beaucoup relativiser là-dessus. Finalement, même si la personne elle a pas apprécié ce qu'on a dit ou qui a manqué quelque chose, si elle vient nous le dire, à la limite, c'est bienveillant. Et la personne qui vraiment est malveillante, en fait, elle viendra pas nous dire que notre pitch il a été naze. Et voilà, donc au pire, on n'a rien, absolument rien à perdre. Soit on se plante et on aura une personne ultra bienveillante qui va nous dire, ah, t'aurais peut-être pu faire comme ça, là c'était intéressant ce que t'as dit, etc., etc. Et l'autre personne qui aura pas du tout accroché, en fait, bah, elle aura pas accroché, elle aura continué, enfin, elle va continuer de marcher, et puis voilà quoi. Ce qui est important aussi, enfin en tout cas pour moi, c'est aussi de se dire, enfin de réussir à se protéger quand on sent qu'on n'est pas totalement ok, et notamment sur la communication, enfin notamment sur la partie communication. Moi, ce que je dis toujours aux personnes, parce que j'en croise plein, et je pense que c'est aussi ton cas, de il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je publie sur les réseaux, il faut que machin, il faut que je fasse des photos de moi où je me montre. Enfin, et en fait, si on voit pas votre... Alors, il y en a qui vont pas être d'accord avec ça, j'en suis sûre, mais si on voit pas votre tête, si vous êtes pas en train de dire que vous avez fait X euros de chiffre d'affaires, etc., enfin, c'est ok, juste posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai envie de partager, avec quoi je suis ok. Si j'ai pas envie de partager ma vie sur les réseaux, enfin c'est totalement d'accord avec ça, mais que vous avez envie de partager le cœur de votre activité, vos apprentissages, enfin allez-y plutôt là-dessus. Enfin ouais, se poser la question pour être d'accord quand on n'est pas totalement en confiance en soi et qu'on a peur du jugement, c'est quels sont les éléments sur lesquels moi je me sens en sécurité à partager. Et après ça, faut aussi se préparer sur si on a une personne qui n'est pas d'accord, à accepter aussi, et du coup à se dire si c'est constructif ou pas. Si c'est pas constructif, à un moment, faut passer ça. Mais là, après, c'est un bonhomme de chemin aussi à faire pour être prêt à faire ça.
Merci beaucoup pour toutes ces pépites que tu viens de partager.
Avec plaisir.
Émilie, pourquoi le choix des mots est important dans la communication digitale d'une entreprise selon toi ?
Alors, déjà sur le côté canal digital, bien sûr que le côté visuel, graphique, voilà, et je salue les amis graphistes dans la salle, mais va avoir son importance. Mais je pense que les mots, c'est central, parce que si on ne parle pas de ce qu'on fait, si on ne parle pas du message qu'on veut partager, etc., comment on peut connecter avec notre cible, nos auditeurs, nos lecteurs, voilà. Donc je pense que c'est central en ça. Les mots, c'est une place tellement importante. Je crois que... Enfin, j'ai plus les chiffres en tête, mais pratiquement toutes nos décisions d'achat sont guidées par les émotions. Et du coup, en ça, je trouve que le pouvoir des mots a une place plus que centrale, en fait, parce qu'il peut être source d'émotions, de réactions, en fait, chez la personne qui nous lit. L'identification aussi. Moi, je sais que ce qui me parle beaucoup, déjà, en tant que lectrice, pour le coup, c'est de ressentir des émotions. Tant mieux si elles sont positives pour le coup, mais ça peut être aussi en réaction ou quelque chose qu'on cherche à produire chez notre lecteur, que ce soit de la surprise, de la peur, de la colère pour se bouger, pour aller faire une action, etc. Donc préférence pour les leviers plutôt positifs. C'est vraiment, je trouve, un déclencheur sur ça et l'identification aussi. Parce qu'au final, même si on fait une com digitale, très travaillée, etc., on est une entreprise, souvent quand je partage, je donne des cours aussi à l'UIT, en plus à Creil, à côté, et je fais le test avec les classes, les élèves, et je dis, il y a l'entreprise A qui a telle communication, on est les meilleurs, je grossis les traits, bien sûr. L'entreprise B qui dit, on s'est planté à tel démarrage, on a eu tel couac, etc., mais voilà comment on a rebondi, un peu les bases du storytelling, etc., souvent, il y a quand même 90% de la classe qui opte pour moi je suis plus sensible à la communication B. Et on est un peu dans cette ère-là, hein, de toute façon, ces derniers temps, et je pense qu'on se détend, et c'est très bien d'être un peu plus vulnérable, un peu plus authentique, en tout cas plus sincère, sur notre com, parce que à la fin, on est tous des êtres humains avec des peurs, des galères, des envies, des rêves. Et ouais, je pense qu'en ça, les mots réveillent ce côté-là, en fait, chez les gens.
Est-ce que ça ne serait pas peut-être également la capacité à être plus résilient ?
Alors, bien sûr, et je trouve que là, du coup, on reboucle un peu la boucle avec ce que tu disais, Noémie, c'est en fait, autant sur ce qu'on va dire à l'extérieur que notre discours intérieur, ça va changer énormément de choses en termes de perception. Et je pense que, ouais, au démarrage, enfin, je dis pas qu'il faut se planter, mais ça aide, c'est toujours source d'apprentissage, d'expérience, et donc de se dire, ok, bon, bah, j'ai fait de telle manière, ça a pas trop fonctionné, je me dis telle chose, etc. On switch, on prend un petit peu de recul et on change d'angle de perception et généralement ça libère un peu les choses. Mais je pense que c'est un pivot, c'est central sur tous les aspects, quoi. J'aime bien démarrer quand j'anime des ateliers sur cet aspect-là, de dire bah voilà, la communication c'est clé, autant vers soi-même qu'avec nos proches, qu'avec quand on s'engueule avec les conjoints, quand on se confie à nos amis, la famille, enfin bref, sur tous les pans de notre vie, je pense que ouais, c'est clé. Et après, bien sûr, le petit focus est à mettre à l'intérieur sur voilà, ce qu'on disait, toute la déperdition entre ce que déjà je dis à l'autre et ce qu'il retient. Il y a plein de choses qui se passent et derrière, bah justement, par rapport aux mots, on n'a pas tous les mêmes perceptions envers les mots, leur tonalité, comment ils sont exprimés, etc. Donc, tellement de facteurs variables sur ça.
Ouais, et si on reprend par exemple le SMS, la grande invention du siècle, ce qui me vient, c'est quand on envoie par exemple un texto, les trois petits points.
Les fameux trois petits points.
Ouais.
C'est un vrai sujet.
Oui. Rien que ça, c'est que ça fait des débats, ces trois petits points, ou les points d'exclamation, ou voilà, chaque petit mot ou chaque ponctuation aussi peut avoir son importance.
Ouais, complètement. Bah, ne serait-ce que écrire en majuscule, on a l'impression qu'on nous crie dessus, tu vois. Donc, gras souligné en rouge, bon, on va éviter, on n'est pas dans l'agression, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais c'est vrai que, ouais, c'est vraiment un sujet. Après, si on déborde, il y a le côté message vocal qui est apparu, et je trouve que c'est cool pour l'aspect, voilà, d'éviter des quiproquos, apporter un peu plus de nuances et compagnie. Mais c'est marrant parce que, du coup, on parle des mots aujourd'hui, t'ajoutes les émojis dans la danse. Je sais que, pour le coup, je suis très utilisatrice d'émojis parce que j'aime apporter ce côté plus nuancé, plus doux, plus dans l'humour, etc. pour ça. Donc au final, on remarque que c'est hyper complémentaire aussi, le côté plus visuel, où, voilà, les nuances qu'on peut apporter comme ça, pour le coup.
On fait partie de la même team.
C'est ça.
Comment sont perçus les mots et quelles sont les astuces pour bien les choisir selon vous ? Alors déjà, Émilie, tu nous as donné une bonne introduction, Noémie également, sur comment on peut percevoir les mots. Mais est-ce que vous auriez des astuces à nous partager pour alors, bien les choisir ou peut-être mieux les choisir ?
Moi, je dirais la première chose, c'est peut-être de les dire à voix haute. Enfin, en fonction de ce qu'on veut faire, enfin, typiquement un pitch, si on a tendance à l'écrire un petit peu avant, de pouvoir le dire vraiment, pour voir si les mots résonnent ou non. Et aussi de le dire à voix haute, mais auprès de gens, donc en fait de l'expérimenter à droite et à gauche pour avoir des retours, et aussi de demander finalement qu'est-ce que les personnes retiennent pour avoir des retours et savoir si on est bon ou pas. Vous avez parlé d'SMS, mais je trouve le mail aussi.
Ah ouais, le cordialement, bien oui, cordialement.
Tous les formats écrits.
Moi, je mets beaucoup bien cordialement, parce que je trouve que cordialement, au contraire, c'est plus sec que bien cordialement. Mais ouais, les formats écrits, où finalement, fin, c'est aussi source de beaucoup de... Fin, surtout dans la vie pro, je trouve. Enfin, il peut y avoir beaucoup de quiproquos. Des fois, on est dans le rush, parce qu'on a je ne sais combien de mails par jour. Mais des fois, juste aussi pouvoir s'appeler et sortir de l'écrit, ça peut aussi être hyper, hyper important et hyper riche aussi pour les relations.
Ouais, complètement. Enfin, je suis hyper raccord avec ça. Et après, moi, c'est aussi l'exercice qui me parle quand c'est comme ça pour me dire, ok, est-ce que j'ai bien choisi mes mots ? Est-ce que je suis raccord avec ça ? C'est comment je me sens. Comment je me sens quand je le lis, quand j'en parle, quand... est-ce que vraiment tout est aligné en fait, ou est-ce que je me dis ça évoque pas 100% ce que j'aimerais dire, c'est pas super fidèle, et donc dans ce cas-là, voilà, s'accorder aussi le fait qu'il y ait une version B, C, D, et comme tu disais justement pour le fameux pitch, ouais, se questionner un peu en termes de ressenti, ok, comment je me sens avec mon discours aujourd'hui, est-ce que ça exprime toutes les facettes que j'ai envie de partager, ou bah, sinon compléter, modifier, etc. Voilà, la fameuse agilité, et on ajuste avec ça.
C'est déjà peut-être un avant-goût de l'action dans le pouvoir des mots.
Sur comment les choisir, etc. Et puis, ouais, après, je pense qu'il y en a mille des exercices ou des façons de réajuster son discours. Mais ouais, je pense que c'en est une bonne petite entrée en matière. Là, pour le coup.
Je vais refaire le lien avec le mail aussi. Mais par exemple, des fois, dans les mails, les call to action, dans les fameux mails, les inscriptions, etc. Moi, je vois une vraie différence entre inscription, le gros bouton inscription et le je m'inscris. Enfin, je sais pas comment vous percevez, mais l'inscription, c'est là, vas-y, fais ta tambouille. Et le je m'inscris, c'est je clique parce que je vais m'inscrire. Enfin, il y a cet
engagement.
Voilà, il y a cet engagement de je me mets en action pour faire ce truc-là. Et aussi, un truc qui est, moi, qui a été vraiment transformateur pour moi sur la mise en action et le pouvoir des mots là-dessus, c'est le fameux « il faut que je fasse ça, je dois faire ça ». Enfin, l'injonction un peu de la to-do list de « ah, il faut que je fasse ça aujourd'hui », etc., etc. Et en fait, de simplement transformer ces petits mots-là en « aujourd'hui, j'ai envie ». De faire ça, aujourd'hui je vais faire ça, qui là fait appel à la fois au cœur sur le j'ai envie et plutôt au cerveau, ou en tout cas à l'engagement sur le je vais faire ça. Et en fait, ça change complètement la dynamique de l'action qu'on va mettre en œuvre. Essayez, amis entrepreneurs, de se dire, de passer de je dois faire ma comptabilité à j'ai envie, de faire ma compta ou je vais faire ma compta aujourd'hui. Ça met en condition de je le fais aussi pour moi et c'est nécessaire pour mon entreprise en fait. Et ça marche assez bien, ça demande quand même de la rigueur, mais ça marche assez bien pour les actions qu'on n'a pas vraiment envie de faire. Les fameux trucs qui sont pas rayés encore, qui sont malgré tout nécessaires. Donc il faut raccrocher à ce que ça va nourrir en fait pour aller au bout.
Enfin, je suis complètement d'accord et ça illustre juste de quel espace ça part. Est-ce que je suis dans le mode contrainte ? Et du coup, comme tu le dis, en fait, on ne va pas avoir de ressources, peut-être forcément, en tout cas la disposition n'est pas du tout la même que de partir sur, bon, de là à passer sur une passion folle sur la comptabilité. On peut utiliser plusieurs degrés, mais en tout cas, ouais, de switcher ça, j'avoue, c'est un point sur lequel moi j'ai fait attention grâce à l'entrepreneuriat, en fait, sur le quand on parle de discours intérieur, c'est ok, les perceptions qu'on a de soi, mais c'est aussi justement tout après les mises en question de comment je vais m'y prendre, le passage à l'action, etc. Et ça change tout, clairement, sur ça. Après, si en plus on peut supprimer des choses, tant mieux, sur le côté organisationnel, sur ce qui ne doit pas être obligatoire de faire, mine de rien. Mais complètement, cette différence, elle est assez importante, je trouve, dans la disposition après dans laquelle on se trouve.
À présent, si on devait peut-être faire un condensé de toutes ces très riches informations que vous nous avez partagées, de la perception à l'action, qu'est-ce qu'on pourrait, entre guillemets, retenir ?
De tourner cette fois la langue dans sa bouche avant de parler.
Ah, c'est sympa.
Et de peut-être conscientiser ce qu'on se dit au quotidien. En fait, le « je suis fatiguée, j'ai pas envie », le fameux « j'ai mal à la tête », enfin, toutes ces choses qu'on finit par dire qui sont un état. Alors, je dis pas que quand on a mal à la tête, il faut pas le prendre en considération parce que ça peut aussi être un red flag sur ralenti.
Il y a un problème peut-être.
Voilà, ralenti. Mais en tout cas, le fait de dire ouais, je suis fatiguée ou même, je sais pas, avant une prise de parole en public par exemple, de dire ah, je suis pas capable, etc. Ben, en fait, ça te conditionne sur comment tu vas appréhender ce truc-là. Encore anecdote, pardon, mais je me raccroche beaucoup à ces choses-là. Mais une fois, je devais prendre la parole en public pour l'anniversaire d'un dispositif que je portais. Et clairement, je balisais parce que j'avais peur. Clairement, j'avais peur.
Et c'est OK.
parce qu'il y avait des financeurs, j'attendais une cinquantaine de personnes. Ma responsable de l'époque, si elle nous écoute, coucou Sophie, qui me met à l'écart en fait, et elle me dit ok, mets-toi en position de Wonder Woman, donc tu te mets comme ça là, respire à fond et réfléchis à une situation dans laquelle tu étais en position de réussite, en fait où tu étais fière de toi, Et donc, je respire, machin. Et quels sont les... Alors, je sais plus si elle avait dit un adjectif ou deux ou trois, je sais plus. Mais en fait, si t'avais trois mots en fait qui décrivent cette situation, ce serait lesquels? Et répète-les toi, comment t'étais à ce moment-là. Et en fait, bah, du coup, je suis revenue dans la salle et du coup, j'étais à bloc, quoi, parce que j'avais ces mots-là dans ma tête et pas le « j'ai peur et si j'oublie de dire ça et si j'oublie ça et ça et ça ». J'étais vraiment conditionnée pour faire cette présentation. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est vraiment de peut-être conscientiser ce qu'on se dit au quotidien pour pouvoir se mettre en action derrière plus facilement, en tout cas.
Je pense qu'aussi, en parallèle de l'aspect conscientiser, il y a aussi se connaître, en fait. Parce que, mine de rien, c'est rare, mais je sais qu'il y en a certains qui sont assez réceptifs, parfois au discours un peu de violence intérieure, hein, en mode « ah bah non, je suis pas capable, faut que je leur prouve », etc. On est dans un registre complètement différent. Je pense que toutes les trois, on a ce côté plus sensibilité bienveillante qui va beaucoup plus nous parler. Mais je sais que j'en connais qui sont hyper sensibles au driver, un peu plus la combativité, quoi. Donc ouais, je dirais aussi de bien se connaître sur ça. Et si on pourrait après résumer sur tout ça, quand on parle de bienveillance, bienveillance envers soi-même, avec les autres, etc., bah du coup, bienveillance aussi envers les mots, et y mettre le petit coup de projecteur du coup sur cet aspect-là, ouais, pour ajouter une petite note de douceur.
Donc ça voudrait dire aussi, par exemple, de passer des majuscules aux minuscules et limiter les points d'exclamation.
Et les trois petits points.
Mais tu mets un petit emoji sympa,
voilà.
Un cœur derrière, ça passe.
Sans petit émoticône furieux, du coup.
Voilà, c'est ça.
L'émoticône avec la petite tête d'ange, il est sympa aussi. Hein.
Oui, oui.
Moi, je le trouve mesquin.
Ah bah tu vois, moi c'est le clin d'œil. Ouais. Le clin d'œil. Il est à revers, cet émoji-là. Il faut vraiment qu'il y ait le contexte, etc. Mais moi, j'avoue, en plus, pour reprendre l'exemple du mail, généralement, je prends plus ou moins de temps pour la rédaction de mes mails parce qu'ils sont bien nuancés avec des petits émojis et compagnie. Après, chacun a sa sensibilité aussi sur le langage. Ils vont aller à l'essentiel et un mail, et ça passe très bien. Mais voilà, je pense que c'est propre à chacun.
J'ai une question.
Oui,
justement, sur l'utilisation des émojis. Oui. Enfin, dans le cadre de... À la limite... Dans le cadre de newsletters, par exemple, ou même de publications sur les réseaux, quels qu'ils soient, j'ai aucun souci avec ça. En revanche, dans le cadre de mails pro avec un client, et là, je parle plutôt sur la casquette compagnon du compost, parce que quand t'es sur le volet accompagnement d'entrepreneur ou même et aussi communication, dans ma tête, c'est moins gênant, mais dans le cadre d'une relation client où t'es pas du tout dans la sphère communication, graphisme, enfin un truc plutôt pratico-pratique, quoi, comment tu gères l'émoticône? Est-ce que tu te permets l'émoticône cœur-cœur? Enfin, je pousse le trait, mais tu vois, comment tu... Parce qu'au même titre que les mots, enfin, ça peut être à double tranchant, l'émoticône...
Oui, oui, après je pense qu'il y a plusieurs degrés, tu vois, au tout démarrage d'une relation pro. Je pense que pour parler du coup sur mon cas, c'est beaucoup plus sobre. Après, c'est selon les affinités, tu vois, il y a des personnes qui vont rester dans le très formel, etc. Généralement, en plus, je collabore avec des clients qui ont plus ou moins les mêmes valeurs humaines, donc on va vite sur certaines affinités, et donc j'avoue, les émojis se démocratisent rapidement dans mes mails. Après, ouais, c'est un juste dosage, je pense, on revient à la perception, quoi. Ok, est-ce que c'est pas trop chargé? On reste quand même dans le pro, mais voilà. Et toi, Adriana, pour le coup, comment tu...
Pour le coup, en fait, c'est un peu comme dans une recette où quand on prépare un plat, ça peut être une bolo ou n'importe quoi, si on met du sel, mais par contre, il faut savoir jusqu'à quel point on va saler le plat. Et parfois, moi, ça m'arrive très fréquemment. Hein. Bon, alors, les premiers échanges, j'évite les émoticônes, mais en tout cas, celui que j'ai du mal à balayer, c'est le soleil. Souvent, quand je souhaite une belle et agréable journée, je mets un soleil. Des fois, j'ai le réflexe de regarder la tête et je me dis, mais en fait, le temps, il est pourri.
Mais t'en rajoutes grâce à ton mail.
Et voilà, j'ajoute en fait cette petite touche de soleil et je me dis, bon, c'est ok, j'assume.
J'avoue, je partage, je fais pareil.
Moi, je mets le tonnerre.
Pour l'énergie.
L'éclair.
Ce que je vous propose à présent, c'est de nous partager ce que l'IRA représente pour vous.
Moi, je dirais que c'est mon backup. Enfin, c'est vraiment le côté soutien. Ce qui est top, c'est que... En fait, déjà dans l'ADN, c'est souvent des personnes bienveillantes qu'on rencontre qui sont entrepreneur aussi, et donc ce n'est pas un mythe, la solitude de l'entrepreneur. Après, chacun a son, voilà, sa relation avec la solitude, mais j'avoue que quand on est en tout cas solopreneur pour le coup, moi je sais que c'est des parenthèses où je vais connecter avec des gens qui sont bienveillants, qui partagent aussi des galères, voilà, et donc on peut échanger sans fioritures, même si de base c'est toujours source de relations pro, hein, bien sûr, ça peut créer des opportunités, des rencontres, des partenariats, etc. Mais ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est que c'est sincère, et je dirais même qu'on se montre un peu tous vulnérables en fait sur les questions qui se passent et qui sont les événements qui sont organisés en fonction de ça. Donc je remercie Clément au passage pour ça. Mais ouais, c'est vraiment cet aspect dans l'ADN de Lyra, moi, qui me plaît beaucoup.
Et pour ma part, alors c'est un peu particulier parce que pour moi, Lyra, c'est à la fois l'aboutissement de quelque chose parce que je faisais partie de l'équipe Capsule qui a été un peu le, je sais pas le, si on peut dire tremplin, mais en tout cas où on a un peu essayé des choses et finalement ça a abouti à Lyra après. Donc c'est à la fois l'aboutissement de ça, donc un travail auquel j'ai participé en fait. Au début, donc d'avoir aussi été dans les coulisses de qu'est-ce qu'on va faire dans Lyra, et du coup maintenant de voir aussi avec du recul entre guillemets la communauté. Mais en tout cas, donc c'est à la fois l'aboutissement et pour moi c'est aussi finalement une bulle en fait d'entrepreneurs, de bienveillance, d'action, où pour le coup on n'est pas sur une, enfin on, je vais arrêter le ne pas aussi, la négation, c'est hyper important de voir des mots. Donc on est sur une communauté, je trouve, où on a l'espace de pouvoir se rencontrer, de pouvoir expérimenter, de pouvoir tester et de faire tout ça en fait en sécurité. Enfin, je trouve que finalement Clément, il arrive à apporter, être cette, ce filet, ces bretelles et cette ceinture à la fois, où il va en même temps pousser à faire de nouvelles choses et à expérimenter des nouvelles choses pour certains entrepreneurs qui veulent faire des ateliers, essayer des conférences, etc. Donc vas-y, teste sur le temps d'un événement et de le faire en sécurité parce que, bah, comme tu le disais, c'est sympa, c'est pas guindé, quoi. C'est très, très à l'échelle humaine, en fait, ouais. comme communauté.
Vous me faites toutes les deux penser à l'image d'un navire, en fait, d'un bateau où chacun et chacune peut monter pour faire un voyage et vivre une aventure humaine riche.
Un équipage avec chacun qui a son rôle et on affronte les grandes marées.
Je trouve que chacun est acteur en fait et chacun construit le navire ou le port Lyra, voyons-le différemment aussi, mais je crois qu'on a tous notre rôle à jouer en fait dans cette communauté.
Et c'est ça qui est beau et qui crée cette belle synergie.
Exactement.
Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous nous partagez et ce que je souhaitais vous demander à présent pour les auditeurs qui nous écoutent et qui souhaiteraient vous contacter. Comment est-ce qu'on peut vous joindre ?
Internet, réseaux sociaux, bah pour le coup en étant dans la com digitale, je pense que voilà.
Mais envoyez-moi
un courrier. J'aime en fait, beaucoup. Non, bon, bah, j'aime beaucoup parce que du coup ça va complètement à l'encontre et on y retrouve un peu de réel. Mais c'est chouette pour la petite anecdote. J'avoue, j'aime toujours en fin d'année faire la petite carte, voilà, qui accompagne la petite attention pour les clients. Mais ouais, site internet, réseaux sociaux. Enfin pour ma part, Emily Rowe, les mots pétillants. Email ou autre, sans trop de points de suspension et avec quelques émojis, ma porte digitale sera toujours ouverte.
Pour ma part, réseaux sociaux, essentiellement LinkedIn, je suis plus active sur LinkedIn. Donc Noémie Bonga, j'ai attention, il n'y a pas de E à la fin de Noémie. Donc LinkedIn, essentiellement, c'est le plus simple, direct.
C'est noté, je partagerai toutes vos coordonnées dans le descriptif de ce podcast. Et à présent, quel est le conseil que vous donneriez à une personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat ou développer son activité ? Le petit tips qui va bien là à la fin.
On en parlait en off avant l'épisode de podcast, mais cette fameuse agilité en fait de aussi s'autoriser à pivoter, ajuster quand c'est nécessaire. Parce que mine de rien, et j'ai expérimenté ce truc-là, de dire, ok, on part sur un modèle, sur une idée qu'on a, mon entreprise, elle sera comme ça, je fais comme ci, comme ça. Et puis la vie, elle te dit, bah non, en fait, c'est pas comme ça que ça va se passer, en tout cas pas forcément. C'est d'accepter parfois de changer de plan, de switcher, et puis même ne serait-ce que de faire un point avec soi-même. Et j'avais une période, par exemple, où j'étais énormément dans les injonctions. Ah, je vais faire un point en fin de semaine, un point. C'est très bien, ça ajoute de la structure, mais derrière, ouais, c'est peut-être la méthode qui fonctionne, qui est communiquée beaucoup sur les réseaux en ce moment, c'est pas forcément ce qui s'adapte à toi. Donc d'accepter de relâcher, bon, il y a eu beaucoup de relâchements sur le côté orga, donc je réinjecte ça aujourd'hui, mais voilà, en tout cas de se sonder soi-même, est-ce que je suis toujours alignée avec ça, est-ce que je dois pas pivoter quelque chose, changer, des fois c'est juste dans la manière de faire, ou dans le discours qu'on a, sur le, voilà, pour changer la perception de cet aspect-là. Donc ouais, j'irais sur de mettre le petit focus, en tout cas de garder un... Il y a le petit ange et le petit démon qui sont là pour dire « Ok, faut juste ajuster comment tu te sens, est-ce que tu dois changer, continuer ?» Et puis voilà, le sentir et puis y aller.
Est-ce que ce ne serait pas quand la situation elle devient inconfortable et que vraiment on sent que c'est... ouais, on y va, mais il y a de l'inconfort, on pourrait s'autoriser justement à pivoter ?
Ouais, complètement. Alors après, je pense qu'il y a aussi différentes nuances dans le côté inconfort. Est-ce que c'est de l'inconfort parce que, en fait, ça part d'un espace où j'ai pas du tout envie et je me force à le faire ? Ou est-ce que c'est de l'inconfort parce que, bah, on sort un peu des sentiers battus et, fameuse zone de confort, tout ce qui est connu, ça va bien, mais dès qu'il y a de la nouveauté, voilà. Et c'est là où l'IRA intervient pour le côté, oui. on le fait, mais en mode plus sécuritaire, on sait qu'il y a du soutien et voilà. Mais ouais, je pense que du coup, il y a des degrés à avoir et se dire comment je me sens, est-ce que c'est vraiment juste une question de danger et notre petit cerveau qui est là en mode on appuie sur le frein, ou est-ce que voilà, faut switcher complètement notre cap. Et c'est ok, c'est pas forcément un échec, pour le coup, c'est toujours ce fameux cheminement et d'expérience, quoi.
Un apprentissage. Et pour toi, Noémie ?
Assez compliqué de trouver un conseil, mais du coup, enfin, pour rebondir aussi sur la conversation qu'on avait avant en off, les auteurs vont dire oh, ils auraient dû avoir un micro. mais effectivement, on a parlé d'agilité, de rebond à droite et à gauche. On a aussi parlé de solitude, effectivement, de l'entrepreneur. Je pense qu'il n'y a pas une seule façon d'entreprendre, et ça, c'est important de l'avoir en tête. On parle souvent d'adversité, de solitude, etc. Et en fait, moi, je me rends compte que ce que j'essaie d'aller chercher à la fois avec Tabernache et à la fois avec les compagnons du compost, clairement, c'est la collaboration et la coopération. Tu parlais de pouvoir t'entourer aussi, pouvoir déléguer certaines choses. Et en fait, ne serait-ce que de pouvoir construire en fait des propositions d'accompagnement, de projets, et d'avoir toujours quelqu'un en feedback en fait sur lequel s'appuyer, pour moi c'est aussi essentiel. Donc de prendre de la hauteur et se dire, est-ce que je me lance véritablement tout seul, est-ce que j'intègre une communauté, est-ce que j'intègre peut-être une entreprise déjà existante pour favoriser le développement, enfin comment je veux faire les choses. Donc pour moi là, se poser la question de comment on a envie d'entreprendre. Et j'ai échangé aussi avec une entrepreneur qui me disait « Mais moi, je sais pas ce que c'est être entrepreneur. Enfin, je me sens pas un entrepreneur, quoi. » En fait, on est tout le temps en train d'entreprendre. Entreprendre, c'est se mettre en marche pour faire quelque chose. Donc, même si il y a une journée où t'as pas envie d'y aller et que tu fais l'effort de sortir de ton lit... Je vais aller à l'extrême, mais ne serait-ce que d'aller prendre une douche, t'as entrepris le fait d'aller prendre une douche, donc je vais peut-être un peu loin, mais on est tous en capacité d'entreprendre tout ce qu'on souhaite. La seule question à se poser, je pense, c'est comment on a envie de le faire.
Et le fameux passage à l'action.
Et le fameux passage à l'action, une fois qu'on a trouvé de comment on a envie de le faire, ça match, quoi. On met un pied devant l'autre et y aller petit pas par petit pas aussi.
Et d'ailleurs, c'est un joli retour à soi aussi, à un moment donné.
Toujours.
Est-ce que la seule personne qui aurait finalement la réponse par rapport au pouvoir des mots, ce ne serait pas la personne qui se pose la question finalement et qu'elle aurait ça en elle ?
C'est jamais simple de voir aussi ce qu'on a en soi.
Oui, totalement.
C'est pour ça qu'on s'entoure de personnes et qu'on est... je crois qu'il y a un podcast aussi qui existe là-dessus qui part du principe qu'on est la moyenne des personnes qui nous entourent. Clairement, c'est vrai, quoi. Enfin, en fonction de qui on a autour de nous, on va agir différemment.
Ouais, complètement. L'environnement, il a clairement sa part d'importance sur ça, ouais.
À présent, Noémie et Émilie, quel serait pour vous le mot de la fin ?
Ce qui me vient là tout de suite, on l'a pas forcément évoqué, mais c'est peut-être le soin. Le soin sur l'aspect bienveillant, mais prendre soin des mots, soit les autres, etc. Et du coup, ça soigne aussi la relation qu'on a à soi-même, interpersonnelle. On va jusqu'à aussi soigner notre image, mine de rien, en communiquant. Donc ouais, c'est ce qui me vient là, et je me dis, c'est plutôt doux. Voilà, j'aime bien. Hein. Ouais, j'aime bien.
On en revient à la douceur.
C'est ça.
Bah moi j'ai écoute qui me venait à l'esprit, donc écoute de soi, être aussi à l'écoute de son environnement pour savoir si on est ok avec ce qu'on a envie de communiquer. Donc vraiment l'écoute, d'être un peu aux aguets de ce qui se passe.
J'avoue, puis c'est, ça me fait penser, tu sais, sur le côté comment choisir ses mots dans sa communication, etc. Si on refocus et qu'on se remet en mode entrepreneur ou entreprise, c'est quand on écoute sa cible, on a tout son langage, tout son univers, etc. Et du coup, on parle vraiment avec ses codes. Donc, je trouve que il est très bien choisi, ton mot.
Merci. Je vous remercie infiniment pour votre présence aujourd'hui, pour toutes ces pépites que vous nous avez partagées, pour cette exploration aussi du pouvoir des mots qui était extrêmement intéressant. Nous espérons, auditeurs, c'est que ça aura pu vous apporter des clés dans votre quotidien. Émilie et Noémie, je vous dis à très bientôt.
Merci Adriana, à bientôt.
Merci pour ton accueil.
Cet épisode vous a plu ? Votre avis est le bienvenu sur votre chaîne d'écoute favorite. Pour être informé de la sortie des prochains épisodes, il suffit de vous abonner à Plumania. Merci pour votre interaction. Où que vous soyez et quoi que vous fassiez, je vous souhaite une très belle journée ou soirée. À très bientôt.